C'est la suite de l'enseignement de dimanche dernier. C'est des fois un peu compliqué de devoir se restreindre. Je pense qu'il y aurait pour plusieurs dimanches à partager ou à traiter du thème. Mais bon, voilà. On va laisser les choses se faire. Si jamais il faut reprendre un jour, on reprendra. Hop. Voilà. Je connais votre réponse, mais je préfère vous demander quand même. Est-ce que je peux tout vous dire ? Même si ça vous défrise. Donc le thème, c'est « On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël ». C'est tiré, donc on va lire. Saul, puis son fils Jonathan et le peuple avaient pris position à Geba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmat. On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne fabriquent ni épée ni lance. Chaque Israélien descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa pioche, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des pioches, des tridents et des haches était émoussé et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple. Il ne s'en trouvait que pour Saül et son fils Jonathan. J'ai pas envie de reprendre tout, mais on se dit, mais c'est dingue cette histoire-là. Tout un pays qui a laissé à ses ennemis de toujours, les Philistins, le monopole de l'art, de la ferronnerie, autant pour ce qui est des instruments pour l'agriculture et donc pour vivre, parce que il faut bien que les pioches, les tridents, les haches, etc., ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Si tout d'un coup il n'y en a plus, ben, c'est un peu plus compliqué pour faire de l'agriculture et donc d'avoir des récoltes. Et c'est autant plus fou que c'était pareil. Ils avaient laissé aux Philistins, leurs ennemis de tous les jours, de toujours, les armes. En fait, les armes que possédaient les Israéliens, les Israélites, c'était des frondes. Des arcs aussi, mais surtout des frondes. Et voilà, les autres avaient des épées, des lances, etc. Et la question qui... Alors, quand on pense à ça, on dit, mais c'est fou. Pourquoi le peuple de Dieu a laissé le monopole aux ennemis, à leurs ennemis? Et si on va plus loin, en tout cas ça nous occupe, nous aujourd'hui, pourquoi l'Église laisse le monopole de choses qu'elle doit garder, qu'elle doit préserver? Et on disait qu'il y avait un autre souci qui était lié à celui-ci, c'est qu'il y a un souci de transmission. Les forgerons d'Israël ne pouvaient plus enseigner les enfants, les jeunes, j'allais dire les générations suivantes, ce sera plus simple, à l'art de la ferronnerie. Et il y avait donc aussi un problème, me semble-t-il, en tout cas de mon point de vue, de retransmission, de transmission du savoir. Est-ce que l'Église fait la même chose? Et nous nous étions arrêtés sur... Nous nous étions arrêtés sur le verset qui parle de l'église d'Éphèse et où le Seigneur dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Abandonné. C'est assez fort parce que le terme abandonné, ça veut dire qu'on le fait sciemment. On le laisse. On laisse son premier amour, là, pour d'autres choses. On disait que c'est déjà difficile de comprendre comment les gens abandonnaient leurs animaux au temps des vacances. Et on disait que c'était assez dramatique quand les parents abandonnent leurs enfants. L'abandon, c'est quelque chose de volontaire, de conscient, fait sciemment. Et donc si l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour, qu'en est-il de moi, de toi et de nous en tant que communauté? Et la question était posée, il ne se trouvait plus personne au Colombier ayant gardé son premier amour pour le Seigneur. Alors c'est un peu... choc, c'est fait exprès. C'est une question plus qu'une affirmation. En tout cas, ce n'est pas une condamnation. Et c'est peut-être à chacun de se poser la question et se dire, mais où est-ce que moi j'en suis par rapport à mon premier amour? Et quand on parle du premier amour, j'ai trouvé que c'était assez sympa, parce que le terme « premier amour » dans ce texte d'Éphésiens, le mot, c'est le même que le terme du père dans la parabole du fils prodigue, qui dit au retour de son fils « prenez la robe, la première, la plus belle », c'est le même vêtement, c'est le même mot pour signifier ce premier, ce plus important. C'était pas le père dans la parabole ne voulait pas habiller n'importe comment son fils, qu'il l'était déjà, habiller n'importe comment, mais il allait lui donner un habit, une robe qui soit la première, la plus belle, la plus chère peut-être. Nous avons revêtu Christ. C'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus fort, de plus intense. Mais si nous avons revêtu Christ à un moment, est-ce que nous l'avons abandonné? Et au profit de quoi? Et nous nous étions arrêtés sur un questionnement. Si l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour, par quoi l'a-t-elle remplacé? Ou autrement dit, par quoi nous, aujourd'hui, en tant que communauté, nous pourrions remplacer l'amour, notre premier amour? Nous avons entendu, entre autres, que, effectivement, par exemple, dans 2 Timothée, il nous est parlé, hop, ça va, ça a été trop loin. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc voilà, ça on voit ce que c'est. Un peu moins évident, c'est ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Mais j'en viendrai tout à l'heure. Enfin, on peut venir là-dessus. Je connais tes œuvres. Ça veut dire que Dieu les connaît, les œuvres. Il les a vues, il les prend en compte. Mais je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid et bouillant ? La suite est compliquée. Hein ? Je te vomirai de ma bouche. Et puis, le verset 20 dit à cette église de Laodicée, c'est... on le prend souvent dans les textes pour lorsqu'on demande aux gens de se tourner vers le Seigneur et de l'accepter dans son cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentre chez lui. C'est quelque chose que l'on partage souvent, en tout cas moi, lorsque je parle à quelqu'un qui n'a pas encore ouvert la porte de son cœur à Jésus-Christ, il frappe à la porte de ton cœur, il veut rentrer. Mais cette parole est dite à l'Église. Alors on peut aussi la dire à quelqu'un d'autre, mais elle est dite à l'Église. Et je me souviens comme si c'était hier, heureusement d'ailleurs. Il y a quelques années, le Seigneur est venu s'entretenir avec moi, on va dire ça comme ça. « Ah Bernard, l'église du Colombier, écoute, tu sais bien manager, c'est vraiment excellent, il y a une bonne louange, vous avez des actions sociales, vous êtes reconnu un peu par les autorités de la ville, etc. » Enfin bref, c'était tout bien, et à un moment donné, je lui dis « mais, parce que... voilà, je ne suis pas convaincu, Seigneur. En tout cas, je n'étais pas convaincu qu'il était en train de me dire ça pour reluire mes chaussures. Hein, mais... Et c'était tellement chouette ce qu'il disait. Et qu'il a continué en disant « Mais je voudrais pouvoir rentrer dans l'église. » Vous savez ça, on n'oublie pas. Hein. Waouh, ça m'a sonné. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur. On peut croire qu'on fait beaucoup de choses pour le Seigneur. On parlait d'affairisme. On peut remplir nos plannings et on peut avoir une belle louange. Et il faut avoir une belle louange en l'honneur du Seigneur. On peut avoir de très très beaux locaux, mais quand même, si le Seigneur n'est pas là, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Et parfois, on abandonne l'idée qui est la première. Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur ? Parce que ce que nous voulons, c'est ce que toi tu veux. Mais c'est compliqué. Alors, si on le dit sincèrement, je crois que sincèrement, l'Esprit Saint nous le dit, mais c'est quand même pas toujours simple et facile d'entendre et de savoir. Quelle est la volonté du Seigneur ? Donc ça nous oblige à nous arrêter, à prier, à écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et des fois c'est long et on abandonne en disant « Ben écoute, si tu voulais me dire quelque chose, il fallait te grouiller maintenant. » Combien de fois n'ai-je pas dit, je le dis plus hein, depuis notre échange là avec le Seigneur, mais combien de fois j'ai été agacé par... je vais dire ça comme ça, par le manque de réactivité du Seigneur. Au point que, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, j'en ai ras-le-bol, nous on fonce, viens, suis-nous. C'est l'agacement de ne pas voir... mais c'est pas une accusation, en fait c'est pas le Seigneur qui est accusé, c'est mon fonctionnement, c'est notre fonctionnement, c'est le tien peut-être, fonctionnement qui veut tout de suite et tout comme on le veut, comme on le pense, comme on l'a décidé, comme on en a les conceptions. C'est compliqué. Hein. On abandonne parfois, alors c'est vrai pour nous en tant que personne, c'est vrai dans l'église, ça peut être vrai dans les groupes de maison, enfin bon, c'est... on peut venir ici dans cette assemblée du Colombier, tous les dimanches, on peut venir par routine en disant ben, « c'est bien s'il le faut, c'est bien de le faire, c'est juste de le faire », mais sans qu'il y ait quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus tendre, j'allais dire, dans la relation avec le Seigneur. Je me rappelle avoir été agacé, parce que ça m'arrive, hein, par une sœur un jour, déjà bien, bien longtemps, qui voulait... imposer en ce moment-là à l'église à ce que tout le monde danse, alors qu'elle ne vivait rien, ou pas grand-chose en tout cas, dans sa vie de foi, dans la vie de tous les jours. Quoi. Je dis, mais tu ne vas pas venir imposer à l'église des choses que toi, tu ne vis déjà pas sur le plan personnel, dans ta famille, dans ton couple. Bon. Mais j'aurais peut-être pas dû lui dire comme ça, parce que... Quand ça m'agace, des fois, ça sort pas violemment, mais les mots sont pas toujours tendres. Je pense à telle ou telle personne qui, comment dire, en manque de reconnaissance au milieu de l'Église, prophétisait sans arrêt pour avoir une reconnaissance. Pour qu'il y ait une espèce de reconnaissance du ministère prophétique, alors que ce n'était pas le cas. Je ne dis pas que toutes les paroles prophétiques données n'étaient pas vraies, mais j'allais dire qu'il fallait faire le tri, quoi. La Bible dit... Le terme m'échappe, mais analysez, prenez ce qui est bon et laissez le reste. Mais il n'y avait pas grand-chose de bon, quoi. Par reconnaissance, par besoin de reconnaissance des autres, pour se rendre indispensable. Dans Matthieu, je ne sais pas si je l'ai mis, ouais. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, chassé les démons, fait des miracles, etc. » Et le Seigneur dit, « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Bon, c'est pas le sujet, hein, mais il faut qu'on se replace. Ce qui m'a perturbé l'autre jour avec ce texte, c'est le terme « beaucoup », quoi. Beaucoup. Oh, il y en a tant que ça, Seigneur. Aïe, beaucoup. J'ai regardé dans d'autres versions. Bon. C'est pas le thème, mais c'est juste pour dire que il nous faut faire forcément attention sur le plan personnel, sur le plan communautaire, à ne pas vivre des choses qui finalement sont des choses pour nous-mêmes. Mais pas forcément pour le Seigneur. Je me rappelle, j'étais tout jeune chrétien, et je me rappelle de deux communautés qui priaient pour quelqu'un de malade et qui voulaient absolument que la guérison vienne par leur communauté. Et on se dit, c'est n'importe quoi. Mais quand je dis c'est n'importe quoi, il faut qu'on fasse gaffe à notre manière de penser aussi. Hein. Nous ne sommes pas à l'abri de pensées orgueilleuses, vaniteuses. C'est pourquoi il faut parfois que la parole du Seigneur et l'Esprit Saint viennent nous bousculer en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Pourquoi tu le fais? Bon. Nous avons abandonné parfois qu'est-ce que nous pouvons abandonner d'autre ? Mais le temps me manque, hein. Je vais vous donner des pistes. Par peur d'être jugé comme étant une communauté là où il y a du bazar monstre, on a peut-être mis sous le boisseau de la louange spontanée, du chant en langue, des danses devant l'Éternel. Nous avons peut-être abandonné à la laïcité notre témoignage. Nous avons abandonné certaines choses afin que nous soyons, afin d'être convenus, conformes au siècle présent et à ce que le siècle présent attend de nous. Ça risque d'être compliqué, entre autres dans l'avenir, avec déjà maintenant d'ailleurs, avec sur des questions et des positionnements de mœurs. L'Église devient molle afin de ne pas être persécutée. N'abandonne pas l'idée que tu es et non pas seulement que tu dois être. N'abandonne pas l'idée que tu es le sel de la terre et lumière dans le monde. Qu'est-ce que j'ai abandonné, peut-être ? De la même manière, j'ai juste mis comme ça une phrase, il n'y avait presque plus personne au Colombier pour consacrer du temps au Seigneur. Tant d'autres occupations et de loisirs ont pris le dessus. Suis-je plus occupé par ma console de jeu, par la télé ? Par le sport, par la cuisine, le jardinage, les voyages, les hobbies de toutes sortes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, je dis jusqu'où, où est la limite ? Est-ce qu'on a vraiment abandonné au profit de choses comme cela ? Vous savez, non, vous ne savez pas. C'est pour ça que je vous le dis. Au début de son ministère, Jésus a demandé à un journaliste de mettre une petite annonce dans le journal. On demande 12 hommes, mais ça peut être aussi, et ça concerne aussi les femmes, hein. On demande 12 hommes pour commencer une grande œuvre. Il n'y aura pas de salaire, pas de vacances, pas de confort assuré. Les candidats doivent être prêts à rester loin de chez eux pendant de longues périodes, à voyager, à être haïs, incompris, à accepter l'imprévu. Ce travail est dangereux et pourrait conduire à la mort. S'il vous plaît, nous ne souhaitons pas des gens nonchalants qui cherchent des résultats rapides et des gains faciles. J'ai trouvé ça dans un truc à la librairie il y a déjà un bout de temps, enfin quelques années, dans une Bible de l'aventure, je crois, si ma mémoire est bonne. J'ai trouvé que c'était pertinent. Ouais, bon, je l'avais mis là. Est-ce que sur le plan personnel, parce qu'il faut que j'avance, hein, est-ce que sur le plan personnel, nous n'avons pas abandonné certaines choses ? Et je pense entre autres, est-ce que nous ne gardons pas pour nous des choses que nous devrions au contraire donner au Seigneur ? Nous avons abandonné peut-être l'envie que le Saint-Esprit continue son œuvre de transformation en nous, nous rendant en tout point semblables à Christ. Nous préférons garder pour nous et en faire bénéficier les autres. Nous préférons garder notre mauvais caractère, nos sauts d'humeur, nos colères et notre susceptibilité. Je le redis parce que vous n'avez pas compris, je crois. Nous préférons garder notre mauvais caractère, nos sauts d'humeur, nos colères et notre susceptibilité et notre orgueil. C'est comme si nous obligions, alors c'est, vous m'avez permis de tout dire, hein, mais c'est comme si nous obligions le Seigneur à accepter notre contentement, le contentement que nous avons de nous-mêmes. J'allais dire, mais j'ai transformé un peu, j'allais dire surtout notre médiocrité, mais je ne vais pas le dire. Et je le remplace par « Seigneur, accepte nos carences ». Nous avons peut-être abandonné de voir la réalité spirituelle sur le plan d'Angers au profit de l'égocentrisme de notre communauté. Qu'est-ce que Dieu fait au milieu de nous, au lieu de dire qu'est-ce que l'Esprit Saint veut faire dans notre ville et dans notre région ? J'ai trouvé, je passe, hein, je vous dis, je vous lance des pistes parce que sinon c'est trop long. J'ai trouvé intéressant que ce soit l'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour, et on parle des armes des Israélites qui n'avaient plus, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, pertinent, que c'était justement à l'église d'Éphèse qui était encouragé à prendre toutes les armes, dit du chrétien, dans Éphésiens, chapitre 6. L'église d'hier et d'aujourd'hui aurait-elle aussi oublié les armes ? Aurait-elle abandonné le combat ? Je pense à ce verset, je pense l'avoir mis, hop, là. Là, tout en bas, les fils d'Éphraïm, ils étaient armés et ils tiraient l'arc, mais ils tournèrent le dos au jour du combat. C'est rien que cela mériterait quelques temps de réflexion. Est-ce que nous tournons le dos au jour du combat? Est-ce que nous abandonnons les choses au profit de l'ennemi qui gagne? Et quand je pense à ça, mais ce n'est pas uniquement ça, mais est-ce que quand quelqu'un se présente à nous et qu'il est en proie à de la possession démoniaque, est-ce que l'on dit, comme je l'entends parfois de la part de mes frères pasteurs, moi chasser les démons, je sais pas faire, je veux pas faire, j'ai peur de faire. C'est pas, croyez-moi, dans ma bouche, c'est pas une critique. Mais en même temps, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ce n'est pas qu'il faille aller à la chasse, comme si on voulait chasser les papillons, parce qu'on fait gaffe, mais en même temps, on ne laisse pas les gens dans des problèmes et dans des difficultés. Je suis des fois un peu estomaqué par le nombre de personnes qui me téléphonent pour recevoir des délivrances, et c'est de cette ville-là, c'est de l'autre, c'est de là-bas, et je dis, ben non, je fais pas ça par téléphone, quoi. Est-ce que l'ennemi à spolier l'Église de cette de ce service, j'allais dire, de cette onction, injonction du Seigneur, parce que par la peur, on a abandonné peut-être ce type de combat par peur. Sans critique aucune non plus, hein, mais moi je me pose quand même la question en ce moment. Alors je suis fondamentalement pour le prophétisme et pour que le Seigneur vienne, mais je me pose quand même la question, comment se fait-il que, à moins que je ne l'ai pas su, mais comment est-ce que... Il se fait que nous n'ayons pas su qu'une pandémie allait arriver sur le monde entier. Comment se fait-il que des prophètes ont élevé leur voix, mais alors qu'on était déjà en pleine pandémie, etc. Ça me pose question. Et je crie vers le Seigneur en disant, mais Seigneur, donne-nous des prophètes comme Agabus, qui, on ne le voit pas souvent, hein, on le voit deux fois, mais voilà, là, il vient, il dit, il y aura une famine, il y a eu une famine dans le pays, il va voir Paul et il dit, mais voilà, tu vas être enchaîné et tu vas être prisonnier, etc. Seigneur, donne-nous, donne à l'Église des hommes et des femmes à qui tu donnes ce type de ministère prophétique qui est très diversifié. On ne va pas rentrer dans le détail là. Il y a plusieurs types de prophétisme, j'allais dire, où certains sont, le Seigneur les spécialise dans certains domaines. On aura un séminaire et peut-être qu'on en parlera à ce sujet-là, mais voilà, comment en fait ce que je voudrais pas, c'est que ce soit les médiums qui aient le monopole des choses, vous comprenez ? Ce que je ne voudrais pas, c'est que ce soit les rebouteux qui aient le monopole de la guérison, vous comprenez ? Ça me met en colère quelque part. J'allais dire en colère et en même temps dans une certaine impuissance, parce que je pense à Sonia qui dit, ben, j'étais là à prier pour mon papa et j'étais je sais plus quel terme elle a employé, mais impuissante. Voilà. C'est pas facile à vivre. Mais, donc le temps me manque pour parler d'autre chose, mais, et si au travers de cela, le Seigneur n'était pas en train de nous dire, un peu comme Karel nous le disait tout à l'heure, et si le Seigneur était en train de nous dire, mais les amis, c'est pas une fatalité, il faut se lever là, faut bouger. Faut bouger dans vos pensées, dans vos conceptions, mais faut bouger. J'ai l'impression que le Seigneur est en train de nous dire, mais c'est pas une fatalité de laisser et d'abandonner à l'ennemi les choses. Il faut vous bouger pour reprendre, pour ne pas laisser à l'ennemi le monopole. Il faut reprendre les choses, il faut les transmettre. Je n'ai pas le temps, ouais. Le temps vraiment me manque, hein, pour parler de justice, de droiture, de compassion, de réalité spirituelle et de bien, bien d'autres choses. Mais je crois, j'espère, je prie pour que nos mentalités soient pas une mentalité subir, mais à dire, allez, allez les frères et les sœurs, on se réveille, on va y aller, quoi. J'étais impacté quand j'étais jeune chrétien par ce verset que j'aime bien. Ah bah tiens, il veut plus. Oui, il veut plus. Bon, si tu peux passer jusqu'au verset, vas-y. Voilà, merci. Non. Alors. Ah ben ça. Tu peux faire dérouler un peu. Voilà, stop. J'aime bien ce verset du psaume 144, 1 et 2. C'est la version du rabbinat. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui a exercé mes mains au combat et mes doigts à l'art de la guerre, ou mes doigts à la bataille, selon les traductions. Il est mon bienfaiteur et mon rempart, ma forteresse, ma sauvegarde. Il est mon bouclier et en lui je m'abrite. Il soumet les nations à mon pouvoir. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de spirituel là. C'est pas juste le roi David qui dit que le Seigneur l'exerce à la guerre, les doigts à la bataille. En même temps, il y a un mélange de il est en train d'exercer, c'est-à-dire qu'il est en train de m'apprendre. Le Seigneur est en train de m'apprendre à faire le combat. Il est en train de m'apprendre à la guerre spirituelle. Mais en même temps, il est mon bienfaiteur, il est mon rempart, il est ma sauvegarde. Et en lui, moi, je m'abrite en lui, et il soumet les nations à mon pouvoir. Seigneur, que ça devienne une réalité. Je reviens, les Israélites avaient abandonné l'art de la ferronnerie. Et en face d'eux, ils avaient des gens qui avaient des armes, alors qu'ils étaient avec des lance-pierres. C'est surréaliste. L'Église ne doit pas être ainsi et vivre ainsi. Jésus, je te suivrai. On va le chanter. Voilà, si on peut faire la louange. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons entendre. Nous voulons entendre ton cri, Seigneur. Le cri vers l'Église en disant « Laisse-moi entrer, laisse-moi gérer l'Église, laisse-moi t'emmener et t'exercer. » Ça prend du temps, peut-être, mais on apprend, on est en chemin, on est en route. Et le Seigneur crie « Mais reste pas là attentiste, reste pas là à dire « Mais moi je suis bien comme ça. » dans mon confort et j'ai pas trop envie de bouger de mon confort. Et Seigneur, tu es en train de nous appeler. C'est pas un cri violent pour dire tu dois, mais c'est un cri que tu as envers nous en disant mes amis, je suis allé à la croix, mais c'est pas pour rien, quoi. Levez-vous et allez-y, venez à ma suite et reprenez le terrain que vous avez perdu. Voilà, comme dans une prière, je vous invite à chanter le chant.